France. J'ai été élevé dans la liberté, à Tracy. Et mes parents étaient libres, et puis voilà, j'ai toujours été élevé comme ça. En plus, je suis parti dans la marine. Vous comprenez, Valérie, que...
Symbole de liberté aussi, parce que un peu partout.
Ouais, j'adore la liberté. Mais tous les jours, je m'aperçois qu'ils nous mettent un petit coup de... que j'aime pas trop, donc par moments, je deviens un petit peu révolutionnaire. Et... je m'appelle pas de bord pour rien, d'ailleurs. Je dis mon nom, tiens.
Alors, je retrouve Jean-François avec ce vent de fraîcheur qui le transporte jusqu'à nous ce soir. Jean-François, donc 70 ans, qui habite Soissons. Et vous nous livrez...
Pas encore, Valérie.
Ah, le 13 octobre prochain. Hein, j'ai retenu. Voilà. Hein, vous avez dit, vous êtes balance.
On regarde la numérologie, là. Hein.
Voilà, 13 octobre prochain. 4, hein. Voilà. Et en fait, vous nous livriez à quel point vous êtes optimiste, à quel point vous êtes surtout serein et tranquille, alors que vous êtes seul depuis 3 ans, puisque vous avez perdu votre compagne qui est décédée il y a 3 ans. Et vous nous expliquiez à quel point juste jouir des petits moments du quotidien, eh bien, ça peut suffire à être bien.
Oh ben, moi, j'écoute les petits oiseaux, je vois les fleurs de mon abricotier qui sont toutes blanches, je vois mon petit cerisier qui bourgeonne, et puis mes petites mésanges qui viennent picorer, et puis voilà, les jonquilles qui poussent, mes personnages, et puis le bonheur est dans le pré, pourquoi chercher plus loin, quoi.
Alors pourtant, vous êtes tourné vers les agences matrimoniales.
Non, je ne me suis pas tourné, j'ai fait une expérience, quoi, une petite expérience comme ça. Mais je savais pertinemment que je vais pas dénigrer, hein. Mais voilà. Si vous voulez, je vous lis un petit message, quoi. Un petit message, tiens. Voilà. J'appelle. Ben, je réponds à une agence. Moi, c'est le journal local, hein. C'est l'Union. Il s'appelle l'Union. Donc, tous les samedis, il y a un petit truc. Et puis, je dis, bah, tiens, pourquoi pas. Mais bon, peu importe. Je sais pertinemment que... voilà. Donc, je reçois un petit message. Bonjour. Vous permettez ?
Oui, je vous écoute. Ah ben, je vous écoute. Oui, oui.
Alors, donc, c'était le 31 janvier à 14h28. Bonjour, j'ai pensé à vous. 64 ans, féminine et naturelle, un joli sourire, blonde aux yeux verts, ligne conservée, 1m56, retraitée, cadre fonction publique, elle montre douceur, diplomatie et respect d'autrui, envie de faire des projets à deux, voyage, sortie. Bon, ça me plaît bien.
Ça paraît idéal.
Pas mal.
Sur le papier, ça paraît idéal, oui.
Pour moi, attendez, c'est pas terminé. Après, a eu mon téléphone par une autre agence, parce que là, ça commence à se barrer en sucette. Et là, je commence à comprendre. Alors, je ne suis quand même pas un perdreau de l'année, comme dirait votre ami. Donc, voilà. Eu mon téléphone par une autre agence à Charleville. Bon, enfin, je ne vais pas citer de nom. Ce qui m'est fait dire qu'elle travaille en réseau. Cela
mais
ne tient
attendez,
qu'à moi.
Juste pour comprendre, Jean-François, vous étiez déjà inscrit dans une agence pour que votre numéro de téléphone circule ? Non. Ah, ils vous ont démarché, en fait. Hein. D'accord.
Ben ouais, carrément. Ben ouais. Donc, je tombe sur, je ne vais pas dire le nom, qui me renvoie un message. Je vous confirme, ça c'était le 1-2 à 14h16, je vous confirme notre rendez-vous, je ne dis pas le nom non plus de la machine, de demain, vendredi 2 février 2024 à 14h30, je peux le dire maintenant, 5 places des droits de l'homme, premier étage, au-dessus de la pharmacie, à Lens.
À côté de la boulangerie, ok.
Je vous ai rien dit.
Et en face du fleuriste, oui, ok.
Ah, je vous ai rien dit, c'est vers la gare.
Je vous écoute. On vous écoute, d'ailleurs.
Donc, toujours est-il que, alors, le... où j'en étais, moi ? Vous m'avez fait perdre mon latin.
Bah non, vous aviez rendez-vous au premier étage, au bout du couloir, à la porte de droite.
Vous connaissez bien l'endroit, vous, hein ?
C'est ça.
Bon, moi, du coup, j'ai mangé au petit restaurant en bas, comme on mange très bien d'ailleurs. Donc, bonjour, souhaitez-vous que je vous appelle pour que nous en parlions, avec un point d'interrogation. Je ne dis pas le nom, Après, j'ai marqué « Rêve ta vie, c'est le secret du bonheur ».« Rêve ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur ». Ça, c'est moi, hein, ça n'a rien à voir. Alors, je regarde samedi, parce que je ne prends pas les journaux non plus, mais j'ai mon voisin qui me garde le samedi. Alors là, vous allez rigoler, Valérie. Bah, vous devez connaître un peu le business, mais pour moi, c'est trop marrant. Nouveau. 29 ans, grand. Déjà, moi, j'ai pas de chance. Je fais 1m62, je suis marron. Je pourrais jamais trouver de femme.
Ok.
Alors, est doué en informatique, en bricolage.
Hein? Bon, c'est dommage mal. Déjà là, parce que l'informatique, c'est pas votre truc.
Non, pas du tout. Non, mais ça, c'est les gens. Enfin, les gens qui mettent une annonce. Alors, est-ce bidon, est-ce pas bidon, je m'en fous, c'est pas mon problème. Toujours est-il qu'ils versent 2800 balles, ça c'est clair et net. Nouveau, 35 ans, grand. Ah, je suis marron. Excellent bricoleur. Moi, je suis bon bricoleur. Je suis pas excellent, mais je suis bon. Après, nouveau, 39 ans, tendre. Bon, ça je m'en fous. Nouveau, 53 ans, brun. Ça, je m'en fous. Aux yeux bleus. Il adore bricoler. Oh, ça, c'est beau. Nouveau, 57 ans, positif.
Mais attendez, Jean-François. Mais vous l'avez rencontré, la femme de l'annonce, ou pas ?
Ben non, je n'ai jamais rencontré.
Et alors, comment ça s'est passé, là, quand vous êtes arrivé dans le bureau ? Ils vous ont dit, laissez un chèque ?
Si je la rencontre, Valérie, ben elle est morte. Elle ferme la boutique. Si éventuellement je rencontre une personne le premier jour, ben elle fait quoi ? Elle ferme la boutique, elle met la clé sous le paillasson. C'est quand même pas son intérêt de présenter des gens.
Et que ça marche tout de suite, c'est ça que vous voulez dire ?
Ben, bien sûr. On va faire durer le plaisir. Parce que, ben, après, voilà, on va arriver au chèque.
Du coup, on vous a présenté, vous avez rencontré quelqu'un ? Vous êtes parti tout de suite ? Vous avez pris vos jambes à vos cous ?
Personne. Mais elle a bien vu, en fait, elle me sort des photos. Elle dit, voilà, regardez le couple. Je dis, moi, vous voyez, madame, je vais vous en faire voir des photos de bonheur. Et croyez-moi, j'en ai pas mal. Alors, déjà, elle a commencé à blanchir. Déjà, qu'elle était bien blanche. Et là, déjà, elle a dit, lui, c'est pas rigolo. Et puis, à un moment donné, je sais plus comment. Bon, elle m'a dit, si c'est comme ça, c'est pas la peine qu'on continue. Ben, je dis oui, bien sûr.
Oui, effectivement. Bah, de toute façon, il faut rester vigilant. C'est exactement comme pour les applis. Hein. On le répète suffisamment. Oui, voilà.
Non, je suis pas un perdreau de l'année, comme je vous dis. Hein. Mais je savais très bien. J'ai dit comme ça, tiens, je vais passer une petite journée à Lens. J'aime bien Lens, c'est une belle ville. Donc, je me fais un petit resto le midi, tranquille, et puis elle habite juste au-dessus, quoi. Et voilà.
Moi, je peux bien que des auditrices ou des auditeurs nous appellent pour nous dire s'ils ont eu de bonnes expériences avec des agences matrimoniales. Parce que peut-être que ça marche encore pour une certaine génération.
Peut-être. Je peux pas dénigrer. Je peux pas. Et c'est pas du tout à moi. Donc, les exemples que je vous cite, enfin déjà, honnêtement, si j'avais 29 ans, que je sois grand, brun, élancé, déjà, j'ai pas besoin de passer par une agence. Hein. Je vous dis tout de suite, soir, je vais à Compiègne, je vais rencontrer du monde. Hein. Après, 35 ans, grand, brun, aux yeux bleus, mince. Bon, barbe, ça, je m'en fous.
Vous savez, même les jeunes aujourd'hui nous confient qu'ils ont du mal à rencontrer quelqu'un, hein, donc, et alors qu'ils sont sur les applis. Donc, bon, je sais pas, aujourd'hui, non, dans le monde d'aujourd'hui.
La société est quand même bizarre. Hein. Honnêtement, moi, j'ai des amis. Hein. J'ai beaucoup plus d'amis féminines que masculines, en fait. Beaucoup, hein. Je m'entends beaucoup avec les dames. Hein. Et ça passe très bien, le contact, je veux dire, sans être perverse, sans
autre chose. Hein. Non, mais je crois que vous êtes très tranquille, en fait. Très tranquille dans votre vie. Hein. Donc, si une femme s'invite dans votre vie, vous n'allez pas dire non, mais sinon, vous vivez votre vie très tranquillement. C'est ça le message que vous nous transmettez ce soir, Jean-François, non ? Ou je me trompe ?
Ben, c'est vous qui ressentez, moi, je ne peux pas savoir, je ne peux pas me juger, je n'ai pas le droit. Mais ouais, moi, je suis vraiment tranquille.
Voilà.
Ouais.
Serein, serein. Je crois que vous organisez votre vie, ben voilà, entre les voyages que vous faites, la et Creuse, libre. C'est assez, assez ritualisé, j'ai l'impression. Vous avez des repères assez forts. Ce qui peut être rassurant quand on commence à avoir un certain âge. Bon, après...
Oh, mais j'ai toujours été comme
vous
ça.
Vous restez ouvert, en fait. Hein. Là, vous êtes en train de nous
j'ai
dire...
J'ai toujours été libre. Là, ouais. Pour moi, la liberté, ça a toujours été... j'ai eu mon éducation, comme je disais tout à l'heure, dans la liberté, et voilà, quoi.
Mais vous avez réussi à avoir comme une relation un petit peu longue ?
Oui, je suis resté 7 ans, avec une amie à Compiègne. Et puis après, bon, ouais, après c'est un an, moi j'étais à Lyon, après j'ai bourlingué quand même. Et j'aime bien, je ne peux pas rester en place en fait. Oui. Et là j'ai un pied à terre hein, quand même, ça fait, c'est un héritage que j'ai depuis ma grand-mère, donc j'avais tout laissé comme ça. Mais, d'ailleurs, quand j'ai perdu ma maman, parce que, excusez-moi, je vais sortir sur un sujet morbide que je n'aime pas du tout traiter, mais il faut bien y passer. Ma maman avait 59 ans, elle est décédée ici. Donc, une dame très très bien ici dans le quartier, tout le monde connaissait Anna, et une sainte. Ben, elle est partie, bien son âme. Et donc, je suis parti. J'étais avec mon ami de Compiègne, et là, j'ai un peu pété les plombs. Je dis, il y a mal donné, hein, Seigneur, qui m'a fait une entourloupe, hein, c'est pas bon. Donc, je suis croyant à ma manière, je suis pas pratiquant, mais je dis là, il y a un lézard. Donc, je suis parti, et puis je suis parti en Savoie. Et j'ai fait mes 15 ans là-bas, et peut-être tout à l'heure, j'ai eu un ami de Savoie qui m'appelle. J'ai beaucoup d'amis en Savoie, Savoie, Haute-Savoie. Et voilà. Où j'en étais, je ne sais plus. Enfin, toujours est-il que j'ai beaucoup d'amis qui sont en Ariège aussi, parce que j'ai fait beaucoup de montagnes.
Bah oui, en fait, partout où vous êtes passé, vous avez créé du lien.
Ouais.
C'est ça, en fait.
Ouais.
Alors, qu'est-ce que je peux vous souhaiter, Jean-François ? Une rencontre ou pas de rencontre ? Juste la vie qui se poursuit serein. Hein ? Le principal, écoutez, d'ailleurs, Valérie. C'est peut-être ça, c'est de s'endormir serein, de se réveiller serein.
Ah ben là, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Non, par contre, moi, ce que j'aimerais, hein, c'est un souhait. Voilà. Avoir une compagne qui m'accompagne pour les bons moments. Et comme je n'ai pas de mauvais moments, en fait,
ben, que ce soit les impôts... Tant mieux, c'est bien de partager cela avec nous. Ben alors, si quelqu'un vous entend dans la région de Soissons, de Compiègne, entre Soissons et Compiègne, ou à Soissons ou à Compiègne, et qui vous avez 70 ans, vous êtes un monsieur optimiste.
Mais pas encore.
Oui, bientôt. Vous êtes dans votre 70e
arrêtez
année.
De me vieillir,
allez,
hein,
pardon.
Attention.
Vous avez 69 ans et demi.
Vous allez
presque
être mon ami dans quelques moments. Hein.
Oui, c'est vrai. Voilà, vous avez 69 ans. C'est vrai parce que les dizaines, c'est important en plus. Et vous avez une vie qui est très tranquille, très sereine. Vous voyagez beaucoup.
J'ai un psy qui est super. C'est mon pote, d'ailleurs, c'est moi qui fais sa thérapie, parce que là, ça ne va plus. Et donc, il me dit, tu sais, c'est dans la tête, Jean-François. Ben, je dis, ouais.
Ben oui, il a raison, c'est vrai.
Ben, bien sûr.
Ça dépend comment on se vit. Exactement. Et la maturité aussi. Il y a des gens de 50 ans qui ont une maturité de 15 ans, et puis des gens de 25 ans qui ont une maturité de 30 ou 35 ans.
C'est ce qu'il m'a dit. Et je le vois comme ça. Je dis, bon, ben, on n'a qu'une vie, on n'est pas immortel, quoi.
Bah écoutez, en tout cas, moi j'en appelle aux auditrices qui nous écoutent du côté de Soissons ou de Compiègne et qui cherchent un monsieur qui va bien et qui a 69 ans, et bien que ces auditrices nous laissent un message ou un numéro de téléphone et on vous le transmet bien sûr comme on le fait souvent dans la libre
peut-être
antenne.
Peut-être le désespoir même-t-il à l'espoir.
Bah, l'idée c'est quand même de vous mettre en contact. Donc un numéro de téléphone est toujours bienvenu.
Toujours, des rêves de jeunesse, ils finissent toujours par se réaliser.
Eh bien écoutez, je vous laisse. Ce sera le mot de la fin.
Libre.
Ce sera le mot de la fin. Merci Jean-François, merci beaucoup de votre appel. Merci beaucoup, prenez soin de vous, à bientôt, au revoir.
Sarah, Juliette.
Merci, au revoir.
Laisse-moi t'aimer toute une nuit. Laisse-moi toute une nuit faire avec toi le plus long, le plus beau voyage. Oh, oh. Veux-tu le faire aussi? Une hirondelle le fait, mon printemps. Quand je te vois, mon ciel devient plus grand. Je prends ta main, alors je sens que j'ai pour toi, oh, 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 l'amour. De lumière, et le poisson meurt sans l'eau de la rivière. Aussi vrai que nos corps sont nés de la poussière.
D'Europe 1. Valérie Darmon accompagne vos nuits.
Bonsoir Aurélie.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous ce soir sur Europe 1. Que puis-je faire pour vous, dites-moi?
C'est un peu impressionnant. Je voulais partager une situation de harcèlement professionnel.
Oui, qui a commencé il y a longtemps?
Il y a 4 ans.
4 ans. Vous vous êtes séparée de cette personne qui vous harcelait, soit parce que vous êtes partie, soit parce qu'elle est partie, ou la situation dure encore?
Alors, la situation dure encore. C'est devenu crescendo. En fait, au départ, je faisais pas trop attention. Je me disais que ça allait s'estomper, en fait, en ne répondant pas. Et en fait, ça s'est accentué.
Accentué. Comment ça a commencé?
Alors c'est pas dans mon cadre professionnel, c'est un ancien partenaire. On a deux entreprises bien distinctes et ça a commencé par une rupture de partenariat de son origine à lui.
Oui, bon, jusque là on peut ça peut ne pas le faire avec un associé et casser l'association.
Voilà.
Quand vous dites on, vous travaillez avec votre mari, votre compagnon?
Oui, c'est ça, on travaille en couple, oui.
D'accord. Donc, à quel moment il a décidé de se retirer de l'affaire et surtout comment il s'y est pris?
Alors, d'abord, on a eu la dernière année où on a bossé ensemble, il y a eu un gros désinvestissement. Nous, on a mis un peu les pieds dans le plat en lui demandant, enfin en lui disant que si ça lui allait pas de travailler ensemble, il pouvait se retirer. Mais c'était très difficile déjà d'avoir de poser les choses en fait simplement. Donc il y avait beaucoup de pirouettes, on va dire. Donc les choses se sont un petit peu dégradées et il y a eu un gros clash début 2020. Il a changé de situation personnelle et privée et nous ça a été un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase donc lui il a dit que voilà il voulait plus travailler avec moi pensant continuer à travailler avec mon mari mais évidemment on s'est pas désolidarisé donc du coup le clash a eu lieu de façon un peu violente et humiliante. Voilà.
Oui, parce qu'en fait, là, si je vous suis bien, Aurélie, on ne parle pas forcément de harcèlement, on parle de problématiques d'association avec son partenaire financier, professionnel, etc. On parle de mauvais comportement. Or, vous nous avez dit harcèlement.
C'est-à-dire oui, parce que ça a continué.
Ah.
Voilà, c'est-à-dire qu'après, en fait, le fait qu'on ait rompu, je pense qu'il s'attendait à ce qu'on le supplie. Et vu que nous, on a tracé notre route, en fait, après, tout s'est accéléré et s'est accentué. Donc, on a eu pas mal d'actions de sa part qui, bout à bout, voilà, c'est alors peut-être pas harcèlement, peut-être acharnement serait plus juste.
Mmh. Oui, parce que le harcèlement, c'est quoi? C'est une succession de comportements hostiles, dégradants, humiliants, intimidants, qui visent, en fait, à isoler une personne sur le lieu de travail.
Oui, mais là, nous, on travaille en ligne. Mais par contre, on travaille dans une communauté où tout le monde se connaît. Mmh. On a chacun des business en ligne. On est sur une idéologie forte par rapport à l'alimentation, par rapport à la façon de manger. On fait partie des régimes spécifiques, on va dire.
Vous développez le vegan, le végétarisme, voilà, des choses comme ça. Oui, d'accord.
Tout à fait. Et en fait, on a eu des pressions sur des partenaires, des insultes, des menaces de mort de collègues à lui. On a eu, plein des campagnes mensongères qui ont fait qu'on a perdu aussi des contrats, des produits qu'on vendait. Mais ça se faisait de façon au compte-goutte en fait. C'était pas quelque chose de constant et agressif. On n'en était pas à recevoir 10 mails par jour, par exemple.
Oui, mais effectivement, c'est du harcèlement moral tout de même.
Voilà.
Là, ça rentre dans le harcèlement moral qui est puni par la loi, hein. Vous vous êtes renseignée auprès d'un avocat?
Le problème, c'est que nous, on avait beaucoup de mal à faire valoir ce qui se passait et que tout le monde est au courant, même encore aujourd'hui, hein, ça continue et tout le monde est au courant. Et quand on demande aux personnes, est-ce que vous seriez prêt à faire une attestation ou est-ce que vous seriez prêt à témoigner pour nous, en fait, ils ont peur parce qu'il n'y a pas que nous, en fait, pour qui ça se passe comme ça.
Ah, donc c'est la dictature.
Toute personne qui s'oppose à lui n'a plus le droit d'exister, en gros. Voilà.
Oui, mais si vous êtes plusieurs à vivre cet enfer, vous pouvez vous rassembler.
Oui, alors ça commence. Là, ça commence tout juste. C'est-à-dire que pendant 3 ans et demi, 4 ans, on a un peu fait la traversée du désert seul. Et là, les gens commencent à parler. On a deux trois personnes qui viennent et qui disent oui moi aussi je vais témoigner. Donc voilà, ça commence à bouger et c'est comme ça aussi que moi j'ai commencé à bouger. Je me suis dit j'ai besoin d'en parler en fait.
De toute façon, vous savez, moi je le dis souvent dans la libre antenne, tout ce qui est dehors n'est plus dedans, donc c'est important de verbaliser, au moins auprès d'une tierce personne. Bon, là vous avez la chance d'être deux, avec votre époux qui assiste évidemment, qui est peut-être aussi partie prenante d'ailleurs, peut-être qu'il s'en prend aussi à votre époux, non? Parce que visiblement,
il
visait davantage au départ.
En fait, ça dépendait, moi c'était plus sur le niveau, sur la scène professionnelle, mais mon époux jusqu'à ce qu'il ose bloquer son téléphone pendant un an et demi, se prenait des messages d'insultes via WhatsApp, jour, nuit. On était un peu les punching balls.
De cette personne? Oui. Vous avez gardé de toute façon l'épreuve écrite
tout.
De tout.
On a tout.
Les notes, les messages, les courriels. Oui, parce que souvent ça suffit hein, pour dénoncer le harcèlement, l'épreuve écrite. C'est pas nécessaire que les agissements incriminés interviennent à intervalles rapprochés. Hein. Ça, les faits peuvent se passer dans le temps. Oui, voilà, là ça fait 3 ans et demi, 4 ans. Donc,
4 ans. Ce qui s'est passé pour nous, si vous voulez, c'est qu'on a mis très longtemps à prononcer déjà le mot, mais là en fait on est harcelé. En fait, le clou du spectacle, ça a été un petit peu au mois de mai 2023, où là, il nous a amenés au tribunal avec une procédure, moi j'appelle ça une procédure Bayon, en fait, c'était pour nous faire taire. Quelque chose qui était complètement pas du tout justifié, mais il nous a amenés au tribunal. Et là, on s'est dit, la somme qui demandait était hallucinante, c'était bien, bien au-delà de la valeur de notre société ou de notre maison familiale. Et là, on s'est dit, non, mais là, en fait, on est harcelé. Donc ça, il a fallu 3 ans avant que nous on prenne conscience de ce qui se passait.
Et oui, et c'est maintenant, en c'était fait, insidieux. Où, c'était insidieux.
Oui, voilà, c'était très insidieux. Et c'est maintenant où on se dit, mais en fait, il y a eu ça tel mois, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. On a perdu ça. Enfin, c'est une fois qu'on a été devant ce tribunal où on s'est dit, mais c'est pas possible. Alors, donc la chose qui est très bizarre, c'est donc il nous a amené au tribunal et maintenant, donc il ne veut pas rendre ses conclusions.
Le tribunal ne veut pas rendre ses conclusions ?
Non, non, lui, en fait. Ah, lui. C'est lui qui nous a attaqué et il ne veut pas rendre ses conclusions.
D'accord. Mais vous le voyez en présentiel ?
Pas du tout.
Ce monsieur ?
Non.
Jamais, heureusement.
Jamais. Oui. Ah ben heureusement, oui.
Oui, parce que... Est-ce que vous avez peur, Aurélie ?
Plus maintenant. Plus maintenant. On a eu peur, oui, mais plus maintenant. Il y a un moment donné où on a eu peur parce qu'en fait, on a eu aussi des appels à boycott, on a eu des vidéos mensongères qui ont été faites contre nous, qui ont été vues à peu près 80 000 fois, parce que c'est quelqu'un d'assez influent. Et là, oui, il y a eu des fois où on a eu peur parce que la réaction des personnes qui étaient elles aussi manipulées était assez violente. Donc oui, on avait peur qu'il y ait des personnes qui viennent chez nous, qui... Mais maintenant, non. Maintenant, c'est... Voilà, on sait que... Enfin, depuis qu'on a compris qu'on était victime et qu'on n'avait strictement rien à se reprocher et que, ben, comme vous dites, avec l'accumulation des choses, la justice, entre guillemets, était de notre côté, en fait. Là, on a plus une volonté de parler, en fait, de dire les choses qui se sont passées.
Oui, en fait, on parle de cyberharcèlement. On en parlait d'ailleurs avec Lou Pernaud il y a une quinzaine de jours. C'est vraiment du cyberharcèlement. D'ailleurs, on a Marie au 739-21 qui d'ailleurs, je la remercie, qui attire mon attention sur le fait que le mot acharnement est l'équivalent, je la cite, hein, du mot harcèlement, mais dans un cadre juridique, il vaut mieux parler d'acharnement et laisser un tribunal qualifier les faits de harcèlement.
D'accord.
Donc effectivement, vous pouvez aussi, je ne sais pas comment était l'association, comment était le montage financier, etc. Mais vous pouvez saisir aussi le Conseil des Prud'hommes, hein, si un de vous deux est salarié de cette entreprise, saisir le Défenseur des Droits aussi, hein, qui est une institution indépendante qui a pour rôle de veiller au respect des droits et des libertés des citoyens. En défendant les droits fondamentaux et en luttant justement contre les discriminations. Et là visiblement... ce monsieur est quand même très discriminant.
Oui.
Et très violent.
Oui.
Et est-ce que vous... Parce qu'on peut aussi produire des certificats médicaux, en plus du document utile dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que... Parce que 4 ans d'acharnement ou de harcèlement, ça crée des symptômes, non, j'imagine, au niveau de la santé ?
Oui, ça crée du trouble de l'anxiété, ce qu'on appelle les troubles d'anxiété. Donc moi, voilà, j'ai perdu le sommeil pendant à peu près 6 mois. Ça crée de la paranoïa, ça crée pas mal de choses. Hein, après, donc il y a eu le dépôt de plainte, donc cette plainte au tribunal de sa part. Et après, il y a eu une campagne vraiment de dénigrement qui a eu lieu à Noël. Et là, moi, je me suis effondrée. Donc, j'ai été arrêtée pendant un mois. Ça a été requalifié en accident du travail. Et j'ai été vue par un médecin légiste qui a évalué des ITT. Donc là, je suis en pleine évaluation. Et le fait, comme je vous disais, d'appeler, en fait, c'est aussi une façon de récupérer, en fait, mon...
Du pouvoir.
Toute cette période de vie,
du
en
pouvoir
fait,
sur qui... votre vie, en fait.
Voilà, exactement, ouais. Du pouvoir sur ma vie, sur ma situation. Quand vous parliez des troubles, ben, moi j'ai eu ce qu'on appelle aussi un trouble de l'évitement, c'est-à-dire que je me suis, pour oublier ce qui se passait pendant un an et demi, je me suis énormément chargée de travail. Ouais. Pour ne pas voir, en fait.
Vous êtes réfugiée dans le travail, comme on dit.
Oui.
Une fuite.
Oui,
hein,
c'est ça.
Bien sûr. Mm.
Voilà.
Oui, c'est une manière de demander justice, en fait, hein, de porter la voix haut. Hein, comme on dit, pour qu'on vous entende et qu'on soit nombreux à vous écouter. Et vous le savez, on a de nombreux auditeurs et auditrices qu'on remercie d'ailleurs à chaque fois dans la libre antenne d'Europe 1. Mais ce monsieur, vous avez eu l'impression à un moment donné qu'il était un peu au-dessus des lois, parce que vous avez dit tout à l'heure qu'il était influent.
Alors je pense
Est-ce
qu'il
que lui
soit...
se vit comme tout-puissant, par exemple?
Oui, bien sûr. Intouchable, tout puissant, surtout dans notre milieu. Il a l'impression qu'il fait la pluie et le beau temps. Et je pense que l'acharnement vient de là. C'est-à-dire que lui, il était persuadé qu'en nous limogeant, c'était le mot qu'il avait utilisé, il était persuadé qu'en fait, sans lui, on allait couler, qu'on allait arrêter de travailler, que plus personne nous ferait confiance. Sauf qu'il avait juste oublié quelque chose, c'est que nous, on était là avant lui. Enfin, surtout mon mari, pas moi, mais lui, on était là avant lui et que on était complètement indépendants dans notre façon de travailler. On avait fait un partenariat parce que c'était gagnant-gagnant, mais on n'avait pas besoin de lui, en fait. Donc, je dis pas que ça a été facile. Hein. Il a fallu qu'on travaille quand même beaucoup. Mais notre entreprise tenait la route. Et lui, il avait eu déjà l'expérience où il s'était mal comporté aussi avec des partenaires, mais il avait réussi à faire couler leur boîte. Donc, plus il voyait qu'entre guillemets, on résistait, plus sa toute puissance était... mise à mal quelque part et il s'acharnait d'autant plus en fait.
Oui, parce qu'il a l'habitude de soumettre les gens.
Voilà, c'était les coûts étaient de plus en plus
c'est
bas.
C'est pathologique chez cette personne.
Ben moi je vais pas parler d'elle, hein, enfin de cette personne-là. Mm-hmm. Je préfère voilà, moi c'était apporter un témoignage par rapport à ce que pouvait être de l'acharnement professionnel. Parce que souvent quand on parle de harcèlement ou acharnement professionnel, on croit que c'est par un collègue ou par un supérieur ou par des clients, ça peut arriver, mais on voit, enfin, comme vous dites, normalement, quand un partenariat s'arrête et chacun fait son chemin, en fait.
Oui, normalement, il n'y a pas d'acharnement derrière. C'est, en plus, là, vous étiez associée. Alors, Marie rajoute au 739-21 un conseil, elle dit que, une question d'ailleurs. Elle dit, que dit l'avocat pour forcer le dépôt de ses conclusions? Pensez aussi au préjudice moral et ne pas prononcer le mot de paranoïa dans des conclusions ni au tribunal.
Ah oui.
Voilà, mais je pense que vous êtes bien épaulée par un bon avocat.
Oui, oui, on a un très bon avocat. Voilà, on a un très bon avocat et mais bon, c'est le rythme de la justice est pas forcément soutenant. Par contre, on trouve
oui,
et
c'est très engorgé, voilà, c'est, on le sait.
Ouais, voilà, c'est ça, c'est le problème, c'est ça. Et puis que il y a le truc aussi, c'est que nous, notre situation nous paraît grave, insurmontable. Et en fait, on se rend bien compte qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus graves. Parce que, comme je disais, nous, on a réussi à entre guillemets à maintenir notre non seulement à maintenir notre entreprise à flot, mais à faire en sorte qu'elle soit florissante. Et on sait qu'il y a des personnes qui ont beaucoup plus de dommages quand ils sont victimes, par exemple, d'un appel à boycott. Donc il y a aussi ce côté-là où c'est avoir confiance à l'avocat, faire le dossier, mais ce qui est long, c'est, voilà, c'est les délais de la justice et l'engorgement des tribunaux. Et je pense que ces personnes-là le savent.
Oui, parce que lui, il y avait des précédents. Vous n'étiez pas informé de ces précédents? Vous ne vous êtes pas renseigné avant de vous associer? Comment s'est fait cette histoire? Vous étiez amis, premier cercle, deuxième
cercle?
Oui,
on était amis et puis nous, on n'avait que sa version. C'est quelqu'un qui est très charismatique. Et en fait, quand il y avait des ruptures avec des partenaires autres que nous, en fait, nous, on n'avait que sa version à lui. Et forcément, il était tout le temps victime, en fait. Et même victime, où il se présentait, on se disait, oh là là, mais quand même, t'es un peu naïf, tu vois bien que là... Et en fait, après, quand nous, ça a clashé avec nous, on s'est dit, bah, on va quand même téléphoner aux autres qui avaient eu les mêmes problèmes. Et là, gros choc, ça a été le premier choc, c'est qu'on s'est rendu compte que ce qu'il nous avait raconté n'était pas du tout la réalité. Et que... Vous savez, c'est un peu le truc, c'est des fois, il y en a, ils racontent des mensonges qui sont tellement gros qu'on on les remet pas en question parce qu'on se dit, bah, c'est pas possible d'inventer un truc aussi énorme, quoi.
Ouais, et ils croient même eux-mêmes à leurs propres mensonges, hein.
Oui, c'est pour c'est ça qu'ils sont persuasifs, d'ailleurs.
Voilà, c'est ça, les menteurs pathologiques. Mmh. Oui, et alors, comment vous avez fait pour répondre au boycott? On répond ou on répond pas?
Alors, c'est ça aussi qui a fait qu'on a eu du mal à mettre du mot sur le harcèlement, c'est que nous, dès le départ, quand il a commencé à être belliqueux, on s'est dit, ok, on ne pourra pas en même temps se défendre et en même temps mettre de l'énergie dans ce qu'on aime faire. Donc on a choisi, puis on avait des gros projets sur le gaz, je vais dire, sur le feu. Du coup, on a préféré mettre notre énergie sur choyer l'équipe de l'entreprise, nos clients, nos nouveaux projets, les projets qu'on avait en cours. Donc en fait, on n'a pas... J'ai perdu le fil de la question, je crois, mais...
Comment on fait avec le boycott?
Oui, voilà.
Est-ce qu'on répond, est-ce qu'on répond pas?
Eh ben, on a fait un droit de réponse qui a été très succinct, en fait. On a une newsletter où les gens se sont désabonnés en masse. Donc, on a récupéré les adresses mail et on leur a envoyé à chacun un mail explicatif, en fait, pour leur dire déjà que ce qu'ils racontaient, c'était des mensonges et de rappeler, nous, nos engagements. Et après, on a continué nos projets,
Vous avez restauré votre réputation. Est-ce qu'on peut dire qu'elle avait besoin d'être restaurée après le passage de cet individu?
Elle est encore entachée, entachée parce que ça s'est passé à Noël et encore hier, on recevait un mail d'une personne nous demandant des comptes. Ben, ce qui a fait que, comment on a fait face au boycott? Alors, la première façon de faire face, c'est que, en fait, on a été aussi très entourés, c'est-à-dire qu'il y a d'autres partenaires de ce milieu-là qui sont assez influents, qui sont de suite venus nous amener leur soutien public. Donc ça a un petit peu, ça a amené une contre-parole de ce qu'il affirmait haut et fort comme une vérité. Donc je pense que déjà ça a été
contrebalancé.
Oui, voilà. Ça a contrebalancé son impact en fait. Et puis après, je pense qu'il y a des personnes qui sont. Il y a aussi le fait que les gens nous connaissent parce que ça fait quand même 17 ans qu'on est sur le marché. Donc il y a eu peut-être des personnes qui étaient un peu froissées par ce qu'il affirmait, mais qui nous ont dit on trouve que vous n'avez pas une attitude super, mais on aime vos produits, on vous connaît, donc on continue à acheter chez vous. Et puis heureusement pour nous, c'est arrivé à un moment donné où c'était un peu creux au niveau des ventes. Donc, mais on s'en rend pas trop compte parce qu'en fait les gens ils n'achètent pas tout le temps chez nous. Les meilleurs clients vont acheter 4 fois par an chez nous. Donc, je pense qu'on aura un peu le bilan de l'impact fin avril.
Oui, en fait, la majorité vous sont restés fidèles tout de même.
Oui.
C'est oui, ça. Oui. Mais en fait, il a pris en otage les clients, finalement.
Oui,
c'est ça.
C'est
hein
ça. Ouais.
Oui. Et normalement, quand on est un petit peu structuré, on prête pas tellement le flanc à des propos comme les siens, parce que s'il utilise Internet pour aller salir la réputation de quelqu'un d'autre, on se dit bien qu'on n'a rien à voir dans l'histoire, en fait, qu'on n'a rien à faire dans l'histoire quand on est client.
Oui, alors sauf que nous, on est dans un milieu qui est assez idéologique, et c'est pas la maturité suit pas tout le temps en fait. Et puis c'est il y a des personnes qui sont dans ces milieux qui sont un peu dans les milieux par exemple vegan où il peut y avoir des personnes qui sont assez extrémistes et qui justement cherchent des choses à combattre. Et là c'est du pain béni en nous faisant passer nous pour les mauvais ou les méchants.
Oui, par exemple, alors vous vendez quoi? On a une auditrice ou un auditeur qui nous demande ce que vous vendez comme produit vegan.
Alors, on est connu pour les algues et les graines germées.
D'accord. Donc lui, qu'est-ce qu'il pouvait, il pouvait vous accuser de quoi, là, par exemple? De ne pas respecter, je ne sais pas moi, les labels, la réglementation
Non, c'est en fait, il a critiqué publiquement le choix de notre avocat. Et notre avocat est quelqu'un qui a été alors c'est compliqué parce que je peux pas trop dire de choses non plus sinon j'ai peur quand même d'avoir des représailles.
Des représailles, mais... oui. Vous êtes encore dans la peur tout de même, Aurélie. Oui, effectivement.
Ouais, que enfin voilà, là c'est enfin je vous dis moi c'est un gros pas en avant déjà de
oui,
parler.
Oui, bien
ça
sûr.
Ça me fait du bien, mais en même temps
vous
c'est
voilà. En tout cas, vous montrez que vous n'avez pas peur en prenant la parole sur une antenne généraliste comme la nôtre et dans la libre antenne. Voilà, vous montrez justement, nous n'avons pas peur et peut-être que vous êtes prêts à médiatiser aussi l'affaire.
Voilà.
Et souvent, ça fait reculer les prédateurs.
Voilà, ce qui est, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que on a fait un choix d'avocat, parce que vu que c'est, comme je vous disais, c'est quelqu'un qui est très influent, très charismatique, qui donne une image au public de quelqu'un de parfait, d'aligné dans ses valeurs. On avait peur de prendre un avocat et de passer beaucoup de temps à devoir lui expliquer comment il fonctionnait. Ce côté un petit peu où on manipule, où on dit un petit bout de vérité, mais derrière, il y a beaucoup de mensonges, enfin des choses comme ça. Donc, on a pris un avocat qui avait déjà porté plainte pour une institution contre lui. Comme ça, on s'est dit, ben voilà, ah oui. Il sait qui c'est.
Il connaît le personnage, voilà. Oui, comme on dit.
Mais voilà, cette institution, à la base, n'est pas du tout pour l'alimentation qu'on pratique. Donc, ils nous ont dit, enfin, lui a présenté les choses en disant, voilà. Donc, ils ont pris cet avocat-là, parce qu'évidemment, dans son esprit, c'est lui qui aurait dû choisir notre avocat, n'est-ce pas? C'est pas nous. On n'a pas le droit de choisir l'avocat qu'on veut, bref. Donc, il a présenté à la communauté en disant, voilà, ils ont choisi cet avocat-là, ça prouve bien que c'est des traîtres et qu'on ne peut pas compter sur eux.
Ah oui, il emploie des mots forts, hein? Des traîtres.
Ah oui, c'était, non, mais c'était plus fort que ça. C'était toute personne qui travailleront avec eux, à partir de maintenant, seront aussi qualifiés de traîtres. Donc, c'est vraiment des choses qui sont... Voilà, on est dans le domaine de l'emprise totale. Il y a des personnes, comme vous disiez, ben, voilà, qui sont soit pas très bien structurées, soit qui sont un petit peu fragiles ou très exaltées, qui gobent, il n'y a pas d'autre mot, qui gobent ce discours-là.
Alors, ça sent un peu, pardonnez-moi, mais ça sent un peu la communauté un petit peu sectaire quand même, non?
Parce que ce n'est pas moi qui ai dit le mot.
Non, mais parce que là, la manière dont c'est présenté, ça fait un peu emprise, ça fait un peu communauté, qui suit un gourou, qui va venir insulter des rivaux. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu... la manière de vous en parler. Et d'ailleurs, on a une auditrice ou un auditeur qui nous dit « pas assez de détails, c'est trop vague ». Mais on a là quand même la sensation qu'il y a une forte emprise de cette personne. Oui, donc je comprends votre peur, parce que si ça fonctionne comme ça, effectivement, de manière un peu communautaire, évidemment que c'est beaucoup plus menaçant pour vous.
Oui, et puis nous, si vous voulez, maintenant, on a une boutique en ligne, mais le siège est là où on habite, donc tout le monde sait où on habite.
Ah oui, donc les personnes qui le suivent ont l'adresse de votre domicile.
Exactement.
Vous avez des enfants, Aurélie ?
Oui.
Ah oui, je comprends que vous ayez peur. Ce serait bien que la justice accélère un peu le traitement du dossier.
Se bouge un petit peu, on est d'accord, oui. Mais en sachant qu'en plus, on n'est pas les seuls. Parce qu'au début, on s'est dit on est les seuls à porter plainte. Enfin, on n'a pas porté plainte, c'est ça le truc, c'est qu'on n'a pas encore porté plainte. Mais on est les seuls à avoir en tant que particulier, on est les seuls à avoir une affaire en justice avec lui. Et là, comme je vous disais, au début, on était seuls. Et là, au fur et à mesure où on commence à parler, on se rend compte qu'il y a d'autres personnes qui, eux, pour le coup, ont porté plainte pour d'autres motifs. Mmh. Et on commence, si vous voulez, à se rassembler. Mais la justice est extrêmement lente.
Oui. En tout cas, ce qui est bien, c'est que vous allez être plusieurs à porter plainte contre la même personne pour des griefs différents. Mais au moins, vous serez plusieurs.
Exactement.
Ça veut dire que cette personne a quand même des choses à se reprocher.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, ouais.
Oui. Eh bien, écoutez, Aurélie, je vous souhaite bon courage, surtout, dans cette affaire.
Merci beaucoup.
Vraiment. Un grand merci d'avoir osé prendre la parole et d'avoir choisi Europe 1 pour le faire. Vraiment.
Merci beaucoup pour ce pas en avant que vous m'avez permis de faire.
Eh bien, écoutez, avec plaisir. Et je vous propose de nous rappeler, si vous le souhaitez, pour nous donner la suite de cette histoire. Parce que, visiblement, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'influence. Donc, parfois, il faut les arrêter.
Je tiendrai Juliette au courant.
D'accord, très bien. Ouais. Merci beaucoup, Aurélie.
Merci.
Merci beaucoup, beaucoup.
D'autres témoignages de la Libre Antenne sont à réécouter sur europe1.fr et l'application Europe 1. Et si vous souhaitez, vous, intervenir sur notre antenne, eh bien rendez-vous ce soir à partir de 22h. Vous pourrez échanger avec Olivier Delacroix au 01 80 20 39 21. À suivre, Sophie et les copains avec Sophie Davant et toute sa bande. Mais la musique a aussi sa place sur Europe 1. On va écouter Christophe, tiens, un titre de 1974, Señorita.
Quand on ne joue plus les marlous, je n'ai pas revu Cabalou. plus rien n'a plus vraiment le même goût. Viviane Leigh a les cheveux blancs, elle regrette le noir et blanc. Pour autant qu'en emporte le vent. Wow, wow, wow. Seigneurita, dépêche-toi et remets ta robe de tata. Tous les plus grands airs d'opéra ont des relents de rumba. Seigneurita, dépêche-toi, je suis un peu plus vieux que toi. Je ne vais plus au cinéma, on a fermé la Alhambra. Brando voudrait bien retenir un tramway nommé Désir. Hollywood, Hollywood ne veut pas mourir. Marilyn aurait 50 ans, James Dean n'est plus un géant. Rien n'est plus vraiment comme avant. Wow, wow, wow. Seigneurita, dépêche-toi, je sens qu'il est bien tard déjà. Quand ma guitare a sous mes doigts les caprices d'une diva. Seigneurita, dépêche-toi, j'espère que tu ne m'en veux pas. Mais les fins comme au cinéma, tu sais ça n'existe pas. Retenant le dernier sanglot. Tous les Indiens sont en VO à l'ouest du Rio Bravo. Rien ne va plus même chez les gringos. Wow, wow, wow. Seigneurita, dépêche-toi et remets ta robe de tata. Tous les plus grands airs d'opéra ont des relents de rumba. Seigneurita, dépêche-toi, je suis un peu plus vieux que toi. Je ne vais plus au cinéma, on a fermé la Alhambra. Seigneurita, dépêche-toi, j'ai oublié les camélias. Je n'ai pas le physique pour ça, alors danse pour moi.
Señorita, Christophe, à l'instant découvert, on se souvient, au golfe Drouot, repéré surtout par l'animateur et l'homme de radio Daniel Philippaki, qui le proposera dans son émission Salut les copains sur Europe 1 face à France Gall. Bon, ce sera un échec, certes, mais bon, sa carrière sera lancée quelques mois plus tard grâce à sa chanson Aline, et il cartonnera avec ce premier succès. Christophe, donc, pour accueillir Sophie et les copains en nouvelle diffusion. Bonne fin de nuit à tous.
Europe 1, Sophie et les copains.
Sophie Davant.
Bonjour, bonjour, ravie de vous retrouver. Le jackpot est de 1200 euros. Venez jouer avec nous. Vous connaissez le principe des questions de culture générale, d'infos insolites. Les règles du jeu ne changent pas. Quatre questions, si vous y répondez correctement, vous accédez à l'épreuve du jackpot et donc 1200 euros actuellement en jeu. Dans quelques instants, on va retrouver Florence qui a déjà trouvé hier trois bonnes réponses. Il en reste une à trouver pour vous aider, Florence. Je vous présente les copains du jour, les trois copains qui sont autour de moi. Je suis rousse. Et alors, c'était une publicité pour de la bière dans les années 80. Eh bien, elle, c'est une publicité pour la bonne humeur et la joie de vivre. C'est Mélanie Gomez. Bonjour.
Bonjour Sophie, bonjour à tous.
Chef du service Société et Culture,
oui,
d'Europe 1, s'il vous plaît.
Rien que ça.
Normalement, il travaille pour une autre radio à l'étage au-dessus.
Oui, deux étages au-dessus.
Mais il s'est incrusté chez nous. Et on est les premiers à nous en réjouir. Clément Lanoux est avec
bonjour,
nous.
Bonjour Sophie, vous m'avez manqué parce qu'on était zone B, zone C, on n'a pas pris les mêmes vacances.
Oui.
Vous m'avez manqué.
Ben, vous aussi. Elle a déclaré, je suis une MacGyver de la ville. Sont nombreux les hommes qui aimeraient être bricolés par elle. C'est Caroline Margeridon.
Bravo.
Bonjour.
Bonjour Sophie, salut les copains.
Et aujourd'hui, nous aurons l'immense plaisir de recevoir à 17h Marie Drucker qui va nous parler de son nouveau livre « Bien manger pour être en forme ». On connaissait la journaliste, la productrice, l'auteur, mais la cuisinière, j'avoue que je n'y avais pas pensé. On verra avec elle si elle aime faire la cuisine. En tout cas, elle nous donne des conseils aidés de spécialistes afin de nous construire une alimentation qui ne nous prive ni de notre énergie, ni de notre plaisir.
Préparez votre, préparez
La bague.
Alors, dans son livre, il n'y a pas un cake d'amour, non. Mais il y a une recette de gâteau au chocolat où l'on remplace la farine par des amandes en poudre.
Ah, moi je connais ça, mais on remplace par de la compote de pommes.
Et vous, on vous répare avec quoi?
On ne me répare pas. Mais par contre, comme vous cuisinez très bien, vous allez adorer recevoir Marie Drucker.
Eh bien, on va voir, on va comparer nos recettes. Caroline, tiens, gardez le micro. Une info du jour.
Bah, écoutez, vous savez tous que le pauvre Kenji Girac a été blessé dans la nuit de dimanche à lundi. Mmh. Mais il faut quand même savoir, parce que ça, c'est un peu mon domaine, que les armes à feu, tout comme d'ailleurs les armes blanches, sont totalement interdites à la vente sur les brocantes.
Oui.
Voilà, parce qu'on entend dire là, depuis ce matin
qu'il avait acheté
ça sur une brocante.
On n'est pas sûr. Il voulait accuser personne, apparemment.
Je pense que c'est quelqu'un de très bien, peut-être, quoique il faut accuser les méchants.
Vous n'avez pas des vieilles armes, des choses comme ça?
Non, pas du tout. Alors justement, je vais t'expliquer. La sécurité intérieure, il y a une loi, ce qu'on appelle c'est la catégorie D, comme quoi la seule chose qu'on puisse vendre sont effectivement les armes historiques et de collection, mais rendues totalement inoffensives, bien entendu. Sinon, vous n'avez pas le droit. Le seul endroit où vous pouvez acheter des armes, et encore, il faut vraiment faire pas de blanche.
C'est chez Sophie d'avant, mais en liquide.
Hormis chez Sophie, c'est dans les armureries, et il faut avoir un permis ou de chasse ou un permis de tir sportif. Mmh. Et malgré ça, je vous assure que c'est pas simple d'avoir des armes. Donc, sur les brocantes, ne rêvez pas, on ne peut absolument pas acheter des armes à feu, c'est totalement interdit.
Bon, on a lu la sortie de mardi, alors on voulait y aller mardi.
Non, tu pourras pas.
Alors moi, c'est pas une humeur du jour, c'est une alerte du jour, vous l'avez peut-être vu ce matin, c'est celle de l'UFC Que Choisir, qui a décidé de saisir les autorités au sujet des crèmes solaires pour visage, soi-disant qui affichaient des indices 50 de donc la protection maximale. Ils ont fait un banc d'essai et se sont rendus compte que sur les 13 testés, 5 marques n'ont pas réellement la protection affichée. 4 d'entre elles n'atteignent même pas l'indice 30, donc beaucoup moins que ce sur quoi c'est censé nous protéger. Donc certes, c'est trompeur, mais c'est surtout très dangereux pour la santé. Quand on protège un enfant, par exemple, avec ce qu'on appelait à l'époque l'écran total, aujourd'hui on dit indice 50.
Pour le visage, c'est pour tout le corps.
Non, parce que les crèmes qui ont été analysées dans ce banc d'essai ne concernent que des crèmes de visage. Ouais. Ils n'ont pas analysé les crèmes corporelles, et d'ailleurs elles sont deux fois plus chères que les crèmes pour le corps quand il s'agit de protéger au niveau solaire le visage.
Et alors ils donnent les marques
Allez, effectivement, on balance. Alors dans celles qui sont il y en a qui sont très bien connues d'ailleurs, Vichy, Biotherme ou encore Lancaster, c'est des crèmes qu'on a tous utilisées. Il y en a aussi qui sont plus vertueuses, donc je vous invite à aller voir cette enquête de l'UFC Que Choisir pour choisir en tout cas celles qui font bien leur boulot, et puis sinon on peut toujours rester à l'ombre.
Ouais, mettre un chapeau, des lunettes.
Clément.
Alors j'ai bossé énormément, je vais vous parler ni arme à feu, ni crème solaire. Je vais vous parler sexualité des Français.
Heureusement qu'on a un homme dans notre émission aujourd'hui.
On n'y connaît rien.
Le sexe pour le sexe, si c'est pas pour fonder une famille, vous le savez, aucun intérêt. Okay. Mais pourtant, le magazine Elle a créé une enquête sur 6000 Français. Ils leur ont demandé justement un petit peu les moments où ils faisaient l'amour et de noter l'intensité à laquelle était ce rapport sur 6 mois. Et on s'est rendu compte qu'il y a une heure fatidique où les rapports sexuels sont beaucoup, beaucoup plus intenses.
Le matin. Moi aussi, je pense que c'est le matin.
Ouais. À essayer de deviner l'heure pour voir.
Moi, je dirais 9h18.
Non, 18h, non-stop.
Ah non, parce que même si je ne suis pas du matin, non, le matin après tu vas bosser. Ouais, moi je dirais entre 7 et 8 heures.
Entre 7 et 8 heures, Sophie, vous diriez quoi?
Non, moi je suis plutôt d'accord avec Mélanie, à 7 heures on n'a pas le temps.
Aussi longtemps?
9h18, ça veut dire qu'on ne bosse pas tout de suite après.
Eh bien, figurez-vous que le rapport le plus intense pour les Français serait à, bravo Caroline, 7h30.
Non, mais comment j'assure?
7h30, c'est le moment où ils vont se faire l'amour.
Surtout, c'est une expérience, elle.
Alors, pour ma part, je suis à l'antenne à ce moment-là, donc j'ai que 3 minutes le temps du flash pour le faire. Donc c'est...
Combien? 3 minutes?
Bah, moi, j'ai que 3 minutes, je suis à l'antenne, donc je ne peux pas.
Est-ce qu'il y a la durée moyenne?
Ah, la durée moyenne, non, ils n'ont pas précisé, puis c'est une étude déclarative, donc les Français auraient pu raconter ce qu'ils veulent. On sait bien que c'est 2h08.
Eh bien, pile poil, j'ai dit 9h, j'ai dit 7-8h.
Bravo,
Caroline.
Mais alors, c'est 7h30 plusieurs fois par semaine?
En fait, c'est 7h30, c'est le moment où si on fait une moyenne, c'est le moment où les rapports, si vous le faites à ce temps-là, seraient les plus intenses.
Il y a une fois dans l'année, 7h30.
C'est pas là où on le fait le plus, c'est là où vraiment vous êtes le meilleur.
Vous avez compris, Sophie, pas souvent,
Florence,
mais bien.
Un commentaire sur cette info.
Eh ben, demain
7h30. Je suis avec précision ce qui est dit, mais pas de commentaire.
Bon, vous êtes célibataire, vous, Florence?
Oui, je suis divorcée, voilà. Donc
c'est pour
je
ça.
Suis célibataire maintenant. Oui, et exactement.
Et contente de l'être, manifestement. Alors, je rappelle que vous avez une épicerie fine à Toulouse. Vous, vous vendez des produits de la région?
Non, je suis spécialisée dans tout ce qui est saumon fumé, tarama,
caviar. Tout ce qu'on aime.
Et les épices, voilà. J'ai la chance de travailler avec deux très belles maisons. Voilà.
Donc, est-ce que vous vendez le caviar d'Aquitaine, là, d'escargot?
Alors, le caviar d'escargot, ça n'a pas lieu d'être. Ça ne peut pas s'appeler du caviar. Le caviar,
du caviar c'est d'escargot juste...
Ouais.
Non, ça, ce sont des œufs d'escargot. Non, je ne vends pas ça.
Mais je sais que c'est ça, le caviar d'escargot. Bah, je connais le caviar. Non, mais le caviar d'Aquitaine avec des vrais esturgeons. Ça existe.
En Aquitaine, ils ont fabriqué un caviar. Comme moi, je ne mange pas d'escargot, déjà, donc je ne risque pas d'en manger. Où, effectivement, ils appellent ça du caviar. Et c'est des œufs d'escargot.
Je ne pense pas qu'on ait le droit de donner le nom caviar. Hein.
Non, on n'a pas le droit.
On n'a pas le droit.
Confirme l'appellation caviar, c'est que pour les sturgeons. Voilà. Mais bon, après, tout le monde l'utilise. On dit caviar. Caviar d'aubergine est toléré. Mais voilà, dans le restaurant du caviar, oui, en effet, du caviar d'Aquitaine, bien sûr.
Ça s'est bien passé, Florence, pour vous hier? Trois bonnes réponses, c'est pas mal. C'était sympa avec Nicoletta.
Ah, génial. Bah, Nicoletta, hein, génial. Bon.
Voici, Florence, une question santé. De Haute-Garonne. C'est un député de chez vous, c'est chez vous la Haute-Garonne, Florence?
Exactement, c'est tout à fait chez moi.
Alors, il porte bien son nom, il s'appelle Daniel Piquemal. Hein,
pour les moustiques.
Et il en a fait son ennemi juré, je parle du moustique tigre, qui gâche nos étés depuis déjà quelques temps, et ce dernier arrive de plus en plus tôt dans nos contrées. Pourriez-vous me dire, Florence, d'où vient l'Aedes albopictus, alias le moustique tigre?
De quel zoo?
Est-ce qu'il vient des marécages de l'Amazone au Brésil, de l'outback australien ou des forêts tropicales d'Asie du Sud-Est?
Moi, j'irais entre 1 et 3. J'aurais un doute, mais je pense que ce serait entre 1 et 3. Mais
et les copains?
Alors, moi, je n'en sais rien du tout, mais je vais vous raconter une anecdote dans un instant. C'est que j'ai été piqué par un moustique un peu particulier en Guyane et j'ai accouché d'une mouche. Je vous raconterai cette histoire après, non. C'est véridique. Je sais qu'en Amazonie, c'était pas le moustique tigre, c'est un autre moustique qui se plante et qui. C'est vrai.
Des œufs.
C'est les mouches qui se plantent et qui pondent sur l'abdomen du moustique. Ça m'est rentré, donc je me suis fait piquer comme n'importe qui par
un
moustique dans l'épaule. J'ai ouvert et j'ai sorti une larve de mouche, ça s'appelle un ver macaque. N'allez surtout pas voir ça sur internet. Et j'ai été en fait finalement maman mouche il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui je crois qu'il doit être peut-être en CM2, mon enfant mouche. Véridique. Tout ça pour vous dire que j'ai pas la bonne réponse, mais j'ai été piqué par cette bête-là.
C'est le scénario du film La Mouche, presque.
J'ai touché aucun centime. Juste
ça aide pas beaucoup notre auditrice, ça.
Non, j'aurais dit Amérique
du Sud.
Parce que j'ai la réponse.
La réponse, ça va me donner des compléments d'infos. Alors, Caroline.
Alors, instinctivement, moi, je dirais la 3. Je ne sais pas pourquoi. Mais je ne sais pas pourquoi ça me parle, la 3. Parce que d'abord, il y a des tigres là-bas. Donc, si tu l'as appelé moustique tigre, voilà, c'est cohérent. Et comme je n'ai pas dormi depuis 48 heures, je me trouve très perspicace aujourd'hui. Et la 3,
c'est pas mal. Moi, je sais que ce n'est pas la 1. Donc, si vous hésitiez entre la 1 et la 3, puisque j'étais en Amérique du Sud, j'en ai pas entendu parler. Je me serais fait piquer forcément, moi.
Vous n'avez pas dormi depuis.
Juste me répéter l'ordre.
Oui. Des marécages de l'Amazone au Brésil, de l'outback australien ou des forêts tropicales d'Asie du Sud-Est.
Il y a des tigres là-bas.
Moi, je dis la 3.
Ouais, vous avez raison.
Je bloque votre réponse. On peut savoir pourquoi vous n'avez pas dormi depuis 48 heures? Est-ce que ça a un lien avec l'info de Clément Lanoux ou pas?
Non,
du tout?
Non, je ne crois pas. Vous
Caroline.
Êtes maman mouche aussi.
Parce que 48 heures à faire l'amour, je ne sais pas si j'y arriverai, Sophie. Non, j'ai eu la chance de
vous avez bien fait danser avec les stars, avec un entraînement pareil.
C'est vrai. Non, mais là, je viens de faire pire encore. Je viens de tourner une émission qui va passer sur France Télévisions fin juin sur le sommeil. Donc, c'était vraiment très sérieux. Avec des vrais médecins, et on nous a enfermés dans un labo pendant, on a compté 42 heures au total.
Vous n'avez pas croisé de moustique tigre, mais peut-être la mouche tsetse?
Non, même pas. Et c'était incroyable, parce que on n'a pas dormi, il y avait quand même, il faut savoir, Francis Perrin qui a 77 ans. Et oui. On n'a pas dormi, on a joué, on était actifs.
Là, vous avez redormi depuis.
Non, j'ai dormi 4 heures, mais
j'ai pas de qui. Non, mais d'habitude, elle dort jamais de ce soir.
Oui, c'est vrai que je dors pas.
4 heures, c'est énorme.
Mais c'est vraiment bien parce que ce sera très amusant parce qu'on s'est vraiment marré, on a dansé et tout pour pas dormir parce qu'on n'a pas dormi du tout. Ouais. C'est ludique, vous allez apprendre plein de choses parce que très peu de Français dorment et de moins en moins d'ailleurs.
Ah bon ?
Donc on va vous expliquer pourquoi et si c'est bien ou pas.
D'accord. Alors, ça nous dit pas si Florence nous a donné la bonne réponse.
Ah ben j'espère quand même.
Est-ce que le moustique tigre vient des forêts tropicales d'Asie du Sud-Est, Mélanie ?
Eh bien, c'est vrai que Caroline est assez perspicace aujourd'hui. Hein. C'est une bonne réponse.
Ouais, bravo.
C'est la quatrième bonne réponse pour Florence qui va tenter un jackpot à 1200 euros dans quelques instants. Alors, Mélanie.
Alors, ce moustique, il vient donc effectivement des forêts tropicales d'Asie du Sud-Est, mais depuis, il a fait du chemin. Hein. Aujourd'hui, on considère qu'il est à peu près partout, si ce n'est en Antarctique.